Carré, la tête, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à tous, voici le sommaire de cette tête au carré réalisée aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin. Les autorités sanitaires inquiètent au sujet d'un médicament prescrit contre les nausées et qui fait l'objet d'un détournement dangereux pour faciliter l'allaitement. On en parle dans un instant dans la revue de presse. Un mercredi au ciné et à la télé, on parle de deux films cet après-midi avec mes invités. Le premier sort en salle, il est consacré à l'univers de Georges Méliès avec un documentaire Le Voyage extraordinaire et le film Restauré du voyage dans la Lune. Serge Brombert, bonjour.
Bonjour.
C'est grâce à vous et à votre société Lobster Film que Le Voyage dans la Lune connaît donc une seconde naissance. Vous êtes une sorte d'archéologue du cinéma et vous allez nous raconter comment vous êtes parvenu à ressusciter ce film qui date de 1902. Et puis le second film dont nous allons parler sera diffusé ce soir sur Canal+. Il s'agit d'un documentaire en 3D dont vous êtes le co-auteur et le personnage principal, Evrard Vandenboom. Bonjour à vous.
Bonjour.
Maka et les aventuriers du monde perdu, c'est donc le titre de ce film qui raconte l'expédition que vous avez dirigé à Madagascar l'année dernière, en grande partie avec une équipe de scientifiques. Un voyage qui vous a donné l'occasion de découvrir un Éden sauvage encore inexploré. Et vous allez nous raconter cette aventure avec justement les découvertes que vous avez pu faire sur place. On se retrouve dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la bibliothèque scientifique idéale avec cette semaine le choix du chimiste Gérard Ferré. C'est Anne-Cécile Perrin qui est sur tous les fronts aujourd'hui et qui a préparé le dossier de l'émission avec Chantal Lemontagnier et Hugo Combe.
Revue de presse. La revue de presse 2S des sciences.
Le boson de Higgs se cache toujours. Le Figaro d'aujourd'hui revient sur les derniers éléments et rebondissements de la recherche de cette particule présentée donc hier au CERN. Les expériences ATLAS et CMS du LHC, le grand accélérateur de particules, ont donc donné des résultats encourageants, mais ils ne permettent pas encore de conclure avec certitude sur l'existence du boson. Selon les physiciens en charge de sa traque, les courbes montrent des événements peut-être attribuables à la présence du Higgs, mais ceci pourrait aussi être autre chose, le fruit du hasard, et le monde nous apprend qu'il y aurait une chance sur 300 pour que cela soit le cas, une probabilité faible mais tout de même significative. L'un des défis donc pour les chercheurs est de réussir à isoler le signal du boson parmi les milliards de particules résultant des collisions produites dans l'accélérateur. Plus complexe que toutes les recherches déjà effectuées en physique des particules, la quête du boson de Higgs trouve son sens dans le fait que cette particule est la clé de voûte du modèle standard de la physique élaborée depuis les années 50. Son existence justifierait ainsi la masse des autres particules élémentaires. Les résultats dévoilés hier montrent que si le boson existe, sa masse doit être comprise entre 115 et 130 gigaélectronvolts, une valeur compatible avec le modèle standard. Le motilium dans le radar des autorités sanitaires dans le monde, daté d'aujourd'hui, on apprend que ce médicament prescrit habituellement contre les nausées fait l'objet de détournements inquiétants. L'un de ses effets secondaires indiqués sur la notice est de favoriser la production de lait, ce qui pousse certains médecins, sages-femmes et sites internet à le recommander pour des femmes qui ont du mal à allaiter. Seulement sa molécule active, la domperidone, comporte des effets indésirables probables, notamment des anomalies du rythme cardiaque. C'est pour cette raison que le médicament est contre-indiqué sur de longues périodes et chez les femmes qui allaitent. En conséquence, l'Association française de sécurité sanitaire des produits de santé, la FSAPS, vient de tirer la sonnette d'alarme et a rappelé aux médecins, pharmaciens et usagers le cadre précis d'utilisation du motilium. Par ailleurs, continue Le Monde, la Société française de pédiatrie se montre réticente quant à la prescription de la domperidone contre le reflux gastro-œsophagien chez les nourrissons. D'une manière générale, les spécialistes estiment que les régurgitations des bébés sont trop médicalisées en France et que les enfants de moins de 2 ans devraient être exposés au moins de médicaments possibles. Après les médicaments, on termine avec les régimes qui se font harponner. L'Express publie cette semaine le classement des 5 régimes les plus désastreux établis par l'Association des diététiciens britanniques. En tête, le régime Ducan, qui selon l'association ne repose sur aucune donnée scientifique. Viennent ensuite la chronogénonutrition, une méthode farfelue qui propose de maigrir selon son groupe sanguin. Et puis le régime cru, les régimes pour accoucher d'un garçon ou d'une fille, ou encore l'alcoolorexie qui consiste à ne plus manger mais à boire. L'Express rappelle que seul le nouveau régime Atkins et le régime de l'index glycémique ont prouvé à la fois leur efficacité et leur sécurité.
La tête carré sur France Inter.
Madagascar et Georges Méliès au menu de notre tête au carré dans un instant, juste après The Kills. Baby Says avec The Kills sur France Inter.
La tête.
La tête.
Je ne le répéterai plus, je l'ai déjà trop dit.
La tête au carré.
Carré.
C'est ouvrir des portes.
Sur France Inter.
Les enfants peuvent écouter.
Pas s'ils sont trop jeunes.
Et tac.
Un voyage dans la Lune, l'autre à Madagascar. Deux films à découvrir cet après-midi dans la tête au carré. Le voyage extraordinaire, en salle, à partir d'aujourd'hui, dans les cinémas MK2, pour découvrir comment était possible la restauration du voyage dans la Lune de Georges Méliès, avec en prime la diffusion justement du film de Méliès en couleur. On va en parler avec vous, Serge Bombert. Vous êtes le fondateur de Lobster Film et directeur du Festival du film d'animation d'Annecy. Et puis donc, nous irons à Madagascar avec vous, Evrard Vandenboom. Vous êtes géologue de formation, organisateur d'expériences, fondateur de l'association Nature Évolution, et vous êtes le co-auteur d'un documentaire en 3D, donc à voir ce soir sur Canal+, à 20h55, Makai, les aventuriers du monde perdu, film qui raconte l'expédition que vous avez menée avec plusieurs scientifiques, ils étaient une quarantaine, dans une région encore inexploitée de Madagascar. C'est la première fois qu'il est diffusé un documentaire en 3D à la télé, ou ça a déjà été fait dans le passé ?
C'est effectivement la première fois qu'est diffusé un documentaire d'aventure en 3D, c'est-à-dire un documentaire qui a été tourné sur le terrain dans des conditions difficiles en 3D directement.
Serge Bombert, vous confirmez ?
Ah bah oui, a priori oui.
Alors, il faudra des lunettes spéciales pour regarder, j'imagine, le film. Pour ceux qui n'en auront pas, on pourra quand même le voir ou pas ?
Alors, il sera effectivement diffusé sur deux canaux, donc en 2D pour ceux qui ont des écrans normaux et en 3D pour ceux qui ont des écrans 3D.
On va donc découvrir votre expédition scientifique dans la deuxième partie de cette Tête au carré. Serge Brombert, le travail que vous avez mené avec Éric Lange sur la restauration du voyage dans la Lune de Méliès, c'est une aventure digne d'une expédition dans les contrées lointaines. Archéologue du cinéma, je le disais tout à l'heure, je trouve que ça vous va bien, parce que c'est vraiment ce que vous avez fait autour de la restauration du film.
Oui, sans aucun doute. D'abord, je voudrais dire que cette restauration a été faite avec Éric Lange, mais elle a été également faite avec des partenaires. C'est une très grande aventure, avec plusieurs grandes étapes, mais on a eu à nos côtés deux fondations, la fondation Groupe Amagan et la fondation Technicolor, qui ont rendu possible la dernière étape. C'est toujours pareil, c'est une course de relais. En 1993, une copie du Voyage dans la Lune est découverte à Barcelone, à la Cinémathèque de Catalogne, déposée par un anonyme. Elle a une grande qualité. Elle est en couleur, alors que c'est un film de 1902, c'est-à-dire 6 ans après l'invention du cinéma. Le Voyage dans la Lune, ce visage de lune avec l'obus dans l'œil, dont personne
n'a vu
le film,
mais
tout le monde connaît l'image, a donc existé, a été montré en couleur en 1902. Comment était-ce possible ? Et du coup, on se dit, on va absolument la montrer, sauf que voilà, le deuxième petit problème, c'est que cette copie est totalement décomposée. La pellicule est très ancienne, elle a 110 ans, et elle n'est plus désormais qu'une sorte de bloc de matière informe. Et il aura fallu 12 années pour, à un moment où ça semblait de la science-fiction, en 1999, quand on récupère la bobine, on se dit on va essayer d'en extraire une ou deux informations, peut-être voir une ou deux images. Et puis, de proche en proche, d'étape en étape, d'image en image, comme un mouvement se recrée progressivement, eh bien, on va voir réapparaître la possibilité de restaurer, voire même de ressusciter le Voyage dans la Lune. C'est ce qu'on raconte dans le documentaire. Et évidemment, l'apothéose de tout cela, c'est le Voyage dans la Lune en couleur, tel qu'on ne l'a pas vu depuis exactement 110 ans.
Alors, Éric Lange, qui est donc à travailler avec vous, on l'entend dans ce documentaire et on va l'écouter, là, quelques instants, raconter justement le travail de restauration.
Rapidement, en fait, je me suis rendu compte que la bobine était collée sur le bord. La décomposition avait attaqué uniquement les bords. Et que l'image, en fait, était intacte. Et que, avec beaucoup de patience, on arrivait à décoller millimètre par millimètre. Quand on commence, en fait, on ne se rend pas compte du temps que ça va prendre. On voit la première bobine, on se dit, on y va. Même si ça prend 2 minutes, on en fait une deuxième, encore 2 minutes. Et puis, au bout d'une heure, on en a fait quoi, une trentaine. Et en fait, il y en a des milliers à faire, mais on ne se rend pas compte qu'on est déjà tellement émerveillé d'avoir réussi à sauvegarder une trentaine d'images qui correspond quand même à peu près à 2 secondes. Donc il y a déjà un bout de mouvement, ça commence à prendre vie. Ce genre de travail, on ne peut pas l'entreprendre si on n'a pas la foi, si on n'y croit pas. C'est vrai que quand on passe des nuits entières à essayer de faire quelque chose dont tout le monde vous a dit que c'était impossible de le faire, il faut pas chercher une logique là-dedans, quoi. C'est au contraire, c'est du domaine du déraisonnable. C'est du domaine de la folie, et puis c'est ça qui est bon.
Heureusement d'ailleurs que vous avez été déraisonnable, Serge Brombert, parce que ça donne un résultat absolument époustouflant.
Les
là maintenant.
Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais.
Mais oui, c'est vrai.
Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on attaque cette exhumation en 1999, les technologies qui vont nous permettre d'aboutir en 2010-2011 ne sont même pas encore conceptualisées. Donc on avance au fur et à mesure. Vous savez, restaurer un film, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas comme restaurer un tableau ou restaurer un livre. Quand on restaure un film, on extrait le contenu de la pellicule originale, qui de toute façon va se déliter et se décomposer. On l'extrait pour le recopier sur un support neuf et pérenne qui durera et qui permettra ensuite de reproduire le film à de nombreux exemplaires. Il y a 12 ans, 15 ans, et en fait depuis les origines de la sauvegarde, pour recopier un film, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on a que la pellicule, on le refotographie. Dans ce qu'on appelle des tireuses.
Donc image par image.
Image par image, mais ça va relativement vite. Au fond, on met le film sur une tireuse, on le fait tourner, et puis en dessous, on met une caméra, et puis la caméra filme le film qui est en train de passer. C'est très simple. Depuis quelques années, depuis une toute petite dizaine d'années, il existe une autre technologie, qui semble évidemment maintenant complètement logique, mais il faut comprendre qu'elle n'existait pas en 99, qui consiste à extraire le contenu, non pas de manière photographique, mais de manière électronique. Pourquoi ne pas photographier avec une cellule numérique chaque image, ce qui permettra, ce que ne permettait pas la photo avant, de rentrer dans le détail de chaque image, stabiliser une image par rapport à l'autre, corriger une couleur et pas l'autre, enfin bref, toute une palette d'interventions qui n'était pas possible à l'époque. Ouais. La seule chose que nous avions au fond en 99, c'était un petit appareil photo qui faisait 3 millions de pixels, donc l'équivalent de ce qu'on appelle le 2K aujourd'hui. Et on a décidé de mettre cette bobine dans des vapeurs chimiques un peu corrosives. Et en 3 ans, progressivement, petit bout par petit bout, le film est tombé en morceaux et nous avons photographié avec cette petite caméra chaque morceau. Il y en a 13 795.
Ouais. Alors, il restait donc une copie couleur.
C'est la seule copie.
C'est la seule. Oui. Il restait combien de copies noir et blanc ?
Alors, original, il en existait 3. Aucune d'entre elles n'était complète.
Ouais. Mais vous avez pu travailler sur ces copies ?
Alors, nous avons travaillé essentiellement avec la copie de Madeleine Maltet-Méliès, qui est la petite fille de Georges Méliès. Mais pour la fin, pour les 54 dernières images, nous avons travaillé avec un autre partenaire de cette restauration. Ce sont les archives françaises du film du Centre du cinéma, qui avait ce qu'on appelle un contre-type, où il y avait ces 54 dernières images. C'était le dernier exemplaire. Ouais. Vous savez, pour restaurer un film, la première étape, c'est d'essayer de voir tout ce qui survit.
Donc là, il y a vraiment un travail de puzzle, hein, parce que vous avez pu travailler donc avec ces différents films et piocher dans chacun d'eux le meilleur pour
Absolument.
Pouvoir restaurer la pellicule.
Et même dans certaines images, on avait par exemple la partie gauche qui était encore existante, puis une partie droite qui était totalement décomposée. Alors on reprenait la partie droite d'une copie noire et blanche, ouais. qu'on recoloriait de manière conforme, et ça refaisait l'image complète. Ouais. Enfin, si vous voulez, et ces problèmes-là multipliés par 13 795. Mmh. Et à nouveau, pour reconstituer un mouvement, et c'est le cinéma après tout, c'est ça, kinéma, il faut que chaque image arrive à la même place que l'image précédente. Mais la photographie que nous avions faite était aléatoire. Il a donc fallu remettre en place chacune, en X et en Y, en abscisse et ouais. en ordonnée, chacune de ces 13 795 ouais. images.
Alors on voit que la technique est parfois extrêmement complexe. Hein. Il a fallu beaucoup de temps pour vous. Évrard Vandenbaum, pour votre documentaire en 3D, donc vous avez tourné en 3D aussi, ça complique énormément le travail sur le terrain ou pas ?
Alors pour vous donner une petite idée, on est normalement sur un cinéma documentaire, on est 2 ou 3 personnes, le réalisateur, le preneur de son, éventuellement un chef opérateur. Là, on était 20, il y avait 20 personnes rien que pour le tournage, donc c'est quasiment une équipe de fiction. Et ces 20 personnes, alors ne serait-ce que pour une unité de tournage, c'est-à-dire un chef opérateur, au lieu d'être tout seul et de pouvoir régler tout ça tout seul, il lui faut un stéréographe à côté de lui qui gère tout ce qui est entraxe et convergence, c'est-à-dire les petits réglages qui font la 3D, ouais. en fonction de l'objet qu'on filme, la distance qu'on a à cet objet. Et puis derrière, on avait quelqu'un qui était relié par un autre fil, un autre câble à un enregistreur, donc un enregistreur un peu spécial qui permet de résister à l'humidité, à la chaleur, à la poussière, etc. Et rien que ça pesait aussi 20 kilos. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui devait appuyer sur le bouton de l'enregistreur, ouais. qui devait porter les batteries, parce qu'évidemment, le système n'était pas adapté à ce genre de terrain, donc ça consommait pratiquement 4 batteries par heure, ce qui était colossal.
Mais est-ce que cette technologie n'est pas trop contraignante par rapport à votre liberté sur le terrain en tant qu'acteur hein, de ce documentaire, parce que l'improvisation est beaucoup plus difficile à mener.
Voilà, effectivement, on perd un petit peu en spontanéité parce que mettre tout ça en place, ça demande quelques minutes d'installation.
Donc il faut répéter les scènes.
Alors, c'est surtout qu'on essayait de ne pas faire les scènes avant que les équipes soient prête. Donc voilà. Après, le problème majeur, c'est surtout en termes de déplacement, c'est-à-dire d'arriver à suivre un scientifique dans l'eau ou de le suivre dans une forêt. Voilà, faut imaginer que rien que le chef opérateur, il a donc 2 caméras. Ces 2 caméras, ce sont de très grosses caméras, ça pesait donc grosso modo 20 kilos. Et que ces caméras, elles doivent être fixées dans ce qu'on appelle un rig. C'est le système qui permet de gérer les 2 caméras simultanément, exactement de la même manière. Et ce rig faisait, là encore, quelque chose comme 5 kilos. Donc ça, c'est impossible à tenir sur une épaule. Ouais. Donc le chef opérateur avait un harnais avec une sorte de potence au-dessus de lui. Et tout était soutenu par un petit ressort à cette potence. Et là, évidemment, ça fait une potence en l'air, des fils à droite, des fils à gauche, des gars derrière accrochés. Donc pour pouvoir suivre quelqu'un qui évolue dans une forêt primaire, c'était particulièrement compliqué.
Alors c'est vrai qu'il y a une scène assez époustouflante. On vous voit descendre au bord d'un petit lac où se trouve un crocodile que vous traquez. Et là, vous faites ça en rappel. Hein. Mais ça veut dire que l'équipe technique derrière a aussi fait du rappel hein.
Ah oui, tout le monde a fait du rappel. Alors il faut se rendre compte aussi qu'il y avait évidemment une équipe de sécurité. Ouais. Derrière tout ça, il y avait des guides de haute montagne et des brevets d'état d'escalade donc qui géraient toute la sécurité pour les scientifiques, mais aussi pour l'équipe de tournage, pour permettre de faire ces images incroyables.
Serge Brombert, si Méliès vivait aujourd'hui, il ferait évidemment de la 3D, hein, sans aucun doute.
Sans aucun doute.
Et il irait probablement dans des pays très lointains.
Vous savez, il y a une chose qui vraiment m'émeut quand j'entends ce témoignage. Au fond, à l'époque de Méliès, la caméra, elle pèse 200 grammes et elle ne peut pas bouger. Donc on est 6 ans après l'invention du cinéma, c'est vraiment la préhistoire. Mais ce qui compte, en réalité, c'est le résultat. Vous voulez montrer Madagascar, et grâce aux technologies, aussi complexes soient-elles, vous avez la possibilité d'y aller. Comme Georges Méliès est prisonnier de son studio, il décide qu'avec la poésie, avec du carton-pâte, quelques acteurs choisis, la lune plutôt que d'aller la filmer là-bas, il va la faire venir sur Terre. mais la démarche est exactement la même. Quand ce soir, des gens vont regarder sur Canal+ votre documentaire sur Madagascar.
Il est bien, il fait toute la pub, il est parfait pour la promo.
Et vont la voir en couleur. Eh bien, je pense à ces gens en 1902 qui n'avaient pas l'habitude de voir des images de cinéma, qui ont vu ces types en redingote sur une lune de carton-pâte et qui étaient convaincus à l'époque que c'était la vraie lune, qu'ils y étaient vraiment allés et que pour tout harnachement, ils n'avaient qu'un parapluie et des chaussures à lacets.
Le thème de l'espace est très à la mode à l'époque.
Vous savez, la lune, elle a toujours fasciné beaucoup. Il y a évidemment Offenbach qui a fait des opérettes. Il y a eu De la Terre à la Lune avec Jules Verne. Il y a eu H.G. Wells l'année précédente qui a fait Les premiers hommes dans la Lune. Et puis il y a même eu une exposition à Buffalo aux États-Unis où on donnait aux gens la possibilité de marcher sur un vrai sol de lune. Comment, on ne sait pas bien, mais enfin les gens étaient très contents. Donc la lune a toujours fasciné. Et quand Méliès investit énormément d'argent sur ce film qui est le Avatar de son époque, disons les choses, c'est le film le plus long de l'histoire du cinéma.
13 minutes.
Vous vous rendez compte, 13 minutes. Avec le plus d'acteurs, il y en a au moins 15. Eh bien, il sait qu'il investit sur une valeur sûre. La lune, c'est quelque chose qui fait vendre. Et paradoxalement, c'est ce qui va presque perdre Méliès, c'est que ça fait tellement bien vendre, la lune a tellement de succès que ça va également être le premier film piraté. Des producteurs américains, Edison, Zelig, Lubin, vont piquer des copies, vont se fabriquer leurs propres négatifs et vont commencer à exploiter le film à leur nom. C'est la rançon du succès.
On peut dire que c'est le premier film de science-fiction quasiment ou pas ?
Alors Méliès était l'inventeur des effets spéciaux au cinéma. Il faut dire qu'il était prestidigitateur de profession, il avait un théâtre de prestidigitation. Et donc, le côté effet spécial est quelque chose qu'il a nourri depuis 1896. Mais plus le temps avance, plus il a envie de raconter des histoires. Et s'il a fait un film qui s'appelle « La Lune à un mètre » en 1896, où un astronome voit la Lune et la Lune vient lui rendre visite, 3 ans plus tard, il fait le voyage dans la Lune, il y va, il monte dans son canon et hardi petit.
Alors Serge Brombert, on va entendre la voix de Georges Méliès, telle qu'on l'entend dans votre documentaire, raconter comment il a découvert le premier trucage du cinéma.
C'est tout simplement un blocage d'appareil qui s'est produit place de l'Opéra pendant que je prenais les voitures qui passaient devant moi. Tout à coup, l'appareil s'arrête. Le temps qu'on le débloque, naturellement, les voitures qui suivaient avaient changé de place. Et j'ai eu la surprise, après collage, de voir tout d'un coup apparaître à la place d'un omnibus Madeleine Bastille, un corbillard avec la famille qui suivait derrière.
Voilà, donc c'est comme ça que s'est passé le premier trucage.
Oui, alors ce
qui est inopiné.
Comme toutes les grandes inventions, Méliès, qui est prestidigitateur, comprend que cet incident lui ouvre la porte vers un univers que les autres n'avaient pas décelé. Ouais. C'est là où Méliès est un inventeur et un poète.
Et on voit Escamotage d'une femme chez Robert Houdin, le premier trucage cinématographique.
Voilà, qui est en fait que Méliès faisait sur la scène de son théâtre sans trucage. Ouais. Et pour le réaliser au cinéma, il utilise le trucage qu'il venait de découvrir.
Alors ce film, évidemment, est extrêmement touchant, d'autant qu'il est en couleur. Alors on peut en être surpris de se dire qu'en 1902, on avait déjà de la couleur au cinéma.
Inévitablement, à la création du cinéma, qui est en noir et blanc, les gens se disent comment vais-je pouvoir faire du son, comment vais-je pouvoir faire du relief et comment vais-je pouvoir faire de la couleur.
Ouais.
Le son, c'était très simple, ils mettaient quelqu'un à côté de l'écran qui parlait. Donc ça, c'est hop, problème résolu. Le problème de la couleur était un petit peu plus complexe et la solution qui a été trouvée très rapidement, et Georges Méliès a certainement été un pionnier, a été de reprendre ces ateliers de coloristes qui faisaient des enluminures de cartes postales ou de plaques de lanternes magiques et de leur demander avec un petit pinceau de colorier image par image, zone par zone, chaque image du film.
Donc, je trouve que c'est un des passages les plus intéressants du documentaire parce qu'on voit ces ouvrières qui étaient des centaines à l'époque.
Elles étaient 200 dans l'atelier de Madame Tullier qui travaillait
pour peindre Méliès sur la pellicule.
Absolument. Alors l'avantage c'est que la couleur était formidable. Chaque œuvre était une œuvre coloriée originale et s'il y avait une deuxième copie commandée, fallait recommencer à zéro. Ouais. Donc quelque part, c'est véritablement
un boulot de
dément. D'autant qu'elles travaillaient sans aucun appareil d'optique, pas de lunettes, pas de loupe. Une image, ça fait 2 mm de large et souvent, elle devait colorier uniquement le visage ou le pantalon ou le truc. Donc, on peut imaginer qu'au bout d'une journée de ça, elle devait devenir complètement folle. Mais à l'arrivée, ça donne quelque chose d'extrêmement rare. Évidemment, il y a eu très peu de copies coloriées. C'était des copies prestige. Mais c'est juste absolument éblouissant.
Oui.
Avec un vrai travail d'artiste hein, sur chaque morceau de pellicule.
Je crois que quelque part, la poésie de l'approximation, du bricolage, mais cette envie de faire découvrir, vaille que vaille, on veut de la couleur, on veut la lune, on veut truc. On est proche de Terry Gilliam, de Gondry, de Tim Burton. On est dans ces univers bricolés complètement incroyables qui nous font retomber en enfance tellement c'est finalement c'est simple. Il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc. Bah, je vais prendre mon pinceau puis je vais colorier. Ouais. Mais il y en a 13 795. Ça va prendre plus de temps.
C'est ça, exactement. On recule devant rien. Est-ce que vous avez sorti votre palette de couleurs numérique pour la restauration du film?
Oui, il se trouve qu'on aurait bien aimé recolorier certains passages avec des vrais anilines de l'époque et des vrais pinceaux. Mais aujourd'hui, les technologies sont ainsi faites qu'on a repris, non pas des pinceaux, mais la palette graphique. C'est plus sur du film, mais c'est sur un ordinateur. Et à l'arrivée, c'est totalement imperceptible. Je pense que véritablement, on a pu restaurer... C'est incroyable, tellement cette copie a été donnée pour totalement perdue. On a pu restaurer la totalité du film. 95% du résultat final provient des couleurs d'origine et 5% vient de ces petits rustinages pour essayer de redonner de la continuité au film. Et puis à la musique, évidemment, puisque à l'époque, Méliès ne donnait pas de préconisation musicale. Il ne disait pas « faut jouer ceci ou cela », mais il disait « jouer de la musique, jouer des airs à la mode, jouer quelque chose ». Et aujourd'hui, on a pris ce parti... avec les fondations, de choisir le groupe R qui a composé une musique moderne, certainement pas du tout dans l'esprit de l'époque.
Mais qui va très bien sur le film.
Mais qui va très bien et qui fait voyager les jeunes générations, comme à l'époque c'était les jeunes générations qui voyageaient vers la Lune.
Voilà, donc ce film qui dure 13 minutes, on le voit donc à la fin du documentaire. Hein, c'est un pack que vous offrez au public pour ceux qui iront dans les salles MK2.
Et, alors, vous avez Balzac à Paris.
Et vous avez sorti un coffret également il y a 2 ans avec les 200 films restants de Méliès parce qu'il en a fait beaucoup plus, à peu près 500, c'est ça?
Oui, Méliès a tourné un petit peu plus de 500 films et il a été exproprié de son studio et de sa maison en 1923, 15 ans avant la fondation de la Cinémathèque française. Et n'ayant nulle part où mettre ses films, il a vendu ses copies positives pour le recyclage pour fabriquer des talons de chaussures et les négatifs, ses 520 négatifs, il a creusé un trou dans le jardin et il les a brûlés. Ouais. Un moment tout à fait cathartique qu'on retrouve dans le Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui parle également de Méliès. C'est un moment de déchirement où clairement les illusions sont perdues sans possibilité de revenir en arrière. C'est ce qui fait l'aspect touchant et merveilleux de Georges Méliès.
Ce documentaire, donc, Le Voyage extraordinaire dans le réseau MK2, et puis un livre, La couleur retrouvée du voyage dans la lune de Georges Méliès, de Gilles Duval et Séverine Vémard, j'espère que je le prononce bien.
Absolument, les directeurs des deux fondations en question.
Avec ce livre, donc, pour retrouver toute cette histoire autour de la restauration. Vous restez avec nous, Serge Brombert, et dans un instant, on va voir si des trucages ont été utilisés sur le tournage du film Makai, les aventuriers du monde perdu, diffusé ce soir sur Canal.
Sanctuary on fire. Help me, 'cause your intentions are pure. 'Cause cool can only be killed, never absorbed.
won't kill you, but I watch you die.
Nerd, à l'instant avec Help Me sur France Inter.
Premier journal d'une expédition, d'un gros projet. On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai la chair de poule là. Donc, c'est bête hein, d'avoir la chair de poule en regardant une caméra, mais je suis content. Il faut que ça marche parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Pour le macaï surtout. Pour ces petits animaux qui m'ont fait pleurer la dernière fois, pour ces plantes qui disparaissent, pour ce petit Éden là qu'il faut protéger. C'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche tout ce projet.
Evrard Vandenbaum, c'est votre voix que nous entendions il y a un instant. C'est l'une des toutes premières scènes de ce documentaire Macaï, les aventuriers du monde perdu, diffusé donc ce soir en 3D sur Canal+, à 20h55, enfin 20h50, très exactement. Ça, c'est vraiment le démarrage et c'est la concrétisation d'un rêve aussi pour vous. Hein, et puis, de tout ce qui va vous attendre ensuite avec les 40 scientifiques que vous avez embarqués dans l'aventure.
Ouais, c'est un rêve en fait qui a démarré il y a presque 10 ans maintenant, en regardant une émission de Nicolas Hulot, donc d'Ushuaïa Nature. Et voilà, des images somptueuses qui m'avaient fait flasher, hein, grosso modo, des images de montgolfières, des images d'hélicoptères, comme à son habitude, d'un massif dit inconnu, inexploré, avec un potentiel de découverte de nouvelles espèces assez hallucinant. Et tout ça dans un beau pays qui est considéré comme le sanctuaire de la biodiversité, comme le paradis des naturalistes. Donc voilà, moi, ça m'a titillé. J'étais à une époque où j'étais un peu, je crois, fatigué d'entendre tous les gens dire que tout était découvert, que tout avait été exploré, que les satellites voyaient partout et qu'on n'allait plus rien découvrir. Voilà, donc là, tout à coup, il y avait comme une sorte de fenêtre ouverte par laquelle je pouvais un peu me jeter pour aller être le premier un jour peut-être à mettre les pieds quelque part.
Mais c'est la question que j'allais quand même vous poser, c'est-à-dire qu'il y a encore des territoires inexplorés sur le globe ?
Je pense qu'il y en a beaucoup en fait, mais tout simplement ce sont des endroits dont on n'a jamais entendu parler, qui n'ont jamais été filmés, jamais été racontés, jamais été visités. Donc forcément quand on ne connaît pas, on considère que ça n'existe pas. Il y en a énormément, il y en a du côté de Bornéo, il y en a du côté de la Patagonie encore, il y a tout un tas de très beaux endroits. Alors la petite nuance à tout ça, c'est que quand on parle d'inexploré, c'est en général inexploré par les Occidentaux, c'est-à-dire par nous, mais localement, les populations ont toujours été un peu bien plus pionnières que nous et sont allées à l'avance découvrir un certain nombre de canyons. Là, dans le massif du Macaï, on est dans un enchevêtrement inextricable de canyons tellement difficile d'accès que même les populations locales ne sont pas rentrées, on va dire, de manière lointaine dans ces canyons parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils craignent des esprits.
On voit la relation qu'ont les populations malgaches de cette zone avec le Macaï. Hein.
En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce massif-là, on considérait, enfin les gens des environs considéraient que c'était un refuge de Dahal. Alors les Dahal, pour ceux qui sont déjà allés à Madagascar, ce sont des voleurs de zébus, des brigands. Et depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, c'est ce phénomène de Dahal, de vol de zébus qui était à l'origine là pour demander la main d'une femme, par exemple. On allait voler un zébu d'un village voisin et on l'offrait à ses parents. Maintenant, c'est devenu une sorte de mafia dans tout le pays. Il y a énormément de vols qui se pratiquent. Et puis, il y a tout un tas d'intermédiaires jusqu'au moment où on va vendre ces troupeaux de zébus volés à Tana ou en tout cas dans certains marchés de Madagascar. Et tout ça, c'est lié un petit peu à de la corruption parce qu'on va récupérer des armes chez les gendarmes du coin, etc. Et on considérait que ce massif du Macaï était un vrai refuge parce que les voleurs du coin pouvaient aller se protéger dans les canyons et planquer les zébus le temps que l'armée sillonne un peu la région, etc. Donc rien que pour ça, les villageois nous disaient, la première fois qu'on a été sur place, ils nous disaient surtout n'y allez pas, ne rentrez pas dans ces canyons, vous n'allez pas en ressortir, etc. Alors bon, au final, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment grand monde et que, en tout cas, le phénomène des Dahal, des voleurs de zébus, avait bien, bien diminué.
Alors Arnaud, qui est en classe de 3e et qui est en stage en ce moment dans la tête au carré, eh bien, une question à vous poser. Il aimerait savoir comment vous avez eu connaissance des espèces vivantes justement à Macaï, vu que personne n'y était vraiment allé avant vous.
Alors, c'est en tout simplement une sorte d'intuition, c'est-à-dire que j'y étais une première fois en 2004, on n'a pas réussi à pénétrer dans la région parce qu'il n'y avait pas de carte à l'époque, enfin il y avait des cartes mais qui étaient au 100 000e. Pour ceux qui font un peu de montagne, le 100 000e c'est bien quand on a un massif assez simple, mais là dans cette espèce de labyrinthe de canyon, c'était absolument pas suffisant pour savoir où on allait, comment on allait pouvoir progresser, où est-ce qu'on allait pouvoir en ressortir. Donc on n'a pas pu y aller à cette époque. On a pu y pénétrer en 2007, vraiment profondément, parce qu'il y a les images de Google Earth qui sont apparues, et ces images sur le Mackay étaient de haute définition. Donc tout à coup, on voyait les arbres, on voyait les ébus presque, on voyait beaucoup de choses. Et donc on a pu pénétrer là-dedans et aller s'approcher des écosystèmes que j'avais repérés sur les images satellites. Mmh. Et dans ces écosystèmes, moi, je me suis dit, c'est tellement isolé, tellement verrouillé de parois inaccessibles réellement, que la végétation qui est à l'intérieur et tous ces écosystèmes-là ont pu offrir toutes les conditions propices à la création de nouvelles espèces. C'était un petit peu... Voilà, ça paraissait assez évident, mais j'en avais aucune preuve. Donc l'idée, c'était d'emmener des scientifiques pour pouvoir valider cette hypothèse-là.
Alors justement, on va écouter un des scientifiques de cette aventure qui, lui, s'intéresse aux fourmis et qui propose, on va le voir, de donner des noms particuliers à ces fourmis.
Pendant ce voyage, on a découvert au moins 5 nouvelles espèces de fourmis. La plupart des gens pensent à un taxonomiste, à ces gens qui bossent dans les musées avec plein de bêtes mortes, tout un entrepôt d'animaux morts. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. En tant que taxonomiste, il y a un truc vraiment cool qu'on peut faire. C'est de donner des noms aux nouvelles espèces. Donc, pour ces 5 nouvelles espèces, je dois réfléchir aux noms à attribuer. Évidemment, je vais en nommer une Mackayensis. Je peux en nommer une en l'honneur d'Evrard. Parce que, vous savez, c'est grâce à lui que j'ai pu venir. Donc, ça donnerait Evrardi. Je devrais appeler celui-là Serapakis Evrardi. Ce serait bien, non?
Voilà, donc une fourmi malgache qui porte votre nom maintenant.
Absolument.
Ça, c'est très flatteur quand même. C'est au moins une réussite de l'aventure. Alors, effectivement, il y a cette expédition scientifique, le travail des chercheurs sur place. Et puis, il y a la volonté de faire un film autour de cette expédition. L'idée de la 3D, elle a été là dès le début pour vous?
Non, pas du tout. Au tout début, moi, l'objectif même des expéditions scientifiques, c'était plus un moyen qu'un but. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'utiliser les arguments qu'on allait pouvoir collecter de ces scientifiques, de ces expéditions, pour demander le statut d'aire protégée à cette région. Donc, il y avait une volonté de faire des expéditions, mais c'était dans un but ultime, disons. Mm-hmm. Et puis, le film, c'était plus pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de gens à la préservation de la biodiversité, au respect de la nature de manière générale. Moi, je n'avais pas particulièrement l'intention de faire de la 3D, j'y connaissais absolument rien, pour être tout à fait clair. Mais en rentrant de la première expédition scientifique en janvier 2010, je suis allé rencontrer Gédéon Programme et j'ai proposé ce projet, cette idée, et je lui ai montré quelques images donc au directeur de la société qui s'appelle Stéphane Millière. Mmh. Et lui, tout à coup, il m'a dit « Non, là, il ne faut pas faire un film maintenant, c'est dommage, les paysages que tu nous amènes là sont tellement extraordinaires, tellement exceptionnels, qu'on ne peut pas s'arrêter à de la 2D, il faut faire le premier film documentaire d'aventure en 3D. Mmh. » Bon, moi j'ai dit « Ok, c'est parti. »
Avec toutes les difficultés que vous nous avez décrites tout à l'heure. Hein.
Ouais, alors c'est marrant parce que ces difficultés-là, je suis sûr que d'ici quelques années, peut-être même là, si on refaisait un film maintenant, tout aurait déjà radicalement changé. Mmh. On n'est déjà plus du tout avec les mêmes contraintes, les mêmes tailles de caméra, les mêmes... Voilà, c'est quand on est pionnier, on essuie un peu les plâtres, donc c'est un peu difficile, ouais. Mais je pense que d'ici quelques années, on en verra fleurir des documentaires en 3D.
Serge Brombert, est-ce que la 3D, c'est une étape importante dans l'histoire technologique du cinéma?
Il y a eu plusieurs vagues de 3D, on a l'impression que c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais il y en a eu une vague dans les années 50, dans les années 70, puis dans les années 2000. La nouvelle vague est déjà un petit peu en train de partir, donc la 3D permet des choses formidables, elle permet aussi de faire le pire, donc c'est en général parce qu'il y a des films très médiocre, mais en 3D, qui commence à inonder les écrans, que les gens se fatiguent de la 3D, etc. Mais une anecdote assez amusante, en 1902, Méliès se fait voler son voyage dans la Lune, on en revient toujours à ça, c'est presque un axe fondateur. Alors il décide de faire une caméra avec deux mécanismes côte à côte, qui vont permettre de tourner en fait deux négatifs originaux du film, et d'en envoyer un aux États-Unis. Comme ça, il pourra sortir ses films
dans le monde entier en même temps, et du coup il pourra plus se faire pirater. Et en faisant cela, sans en avoir absolument pas l'intention, eh bien il enregistre deux films côte à côte avec l'écartement à peu près des deux yeux. En réalité, Méliès est, sans le savoir, le premier homme à avoir filmé des films en relief stéréoscopique. Ouais.
Est-ce que ça va durer la 3D au cinéma, ou est-ce que c'est un effet de mode là, en ce moment?
Alors, la nouvelle vague va durer davantage que les autres parce qu'elle a obligé les cinémas à s'équiper de ces fameux projecteurs numériques, et maintenant les projecteurs qui sont dans tous les cinémas permettent, en appuyant sur un bouton, de passer indifféremment du 2D à la 3D. Mmh. Donc même si la vague s'estompe, il y aura toujours des films en 3D à grand spectacle et des films en 2D. Maintenant, il y a une sorte de cohabitation, mais il y a beaucoup de gens maintenant, c'est vrai, qui vont voir les films en 2D, alors qu'ils sont proposés en relief stéréoscopique, mais au fond, ils disent ça rapporte rien, ça nous fait mal à la tête, puis la couleur est un peu verdâtre, donc voilà, c'est étonnant.
Et vraiment ?
Moi, je peux juste dire que clairement, quand on vit une expérience 3D dans une forêt primaire, quand on suit des scientifiques comme ça, quand on est dans ce genre de milieu naturel qui est extrêmement bien adapté à la 3D, revoir le film derrière en 2D, il manque quelque chose.
Non, mais ça, c'est totalement évident. De la même manière que, et là, je parle d'un auteur, quand Martin Scorsese fait Hugo Cabret, il travaille la 3D avec son talent de réalisateur.
C'est-à-dire qu'il pense dès l'écriture.
Il pense dès l'écriture. C'est une 3D extrêmement intelligente et très spectaculaire. Du coup, ça fait un chef-d'œuvre. Mais voilà, il y a ça, et il y a Les Dents de la Mer 8 en relief stéréoscopique qui est totalement nul, où on voit un poisson en relief. On s'en fout, quoi.
Est-ce qu'il y a des limites, justement, à la 3D aujourd'hui? Est-ce que ça empêche certaines choses dans le cinéma?
Je crois que la 3D, non, n'empêche rien. D'abord, on a la possibilité de l'enlever et de revenir à la 2D sans aucun problème. Simplement, à multiplier les effets, à multiplier les montages, à multiplier les sons complexes, c'est vrai que ça enlève la possibilité qu'a le cerveau de se projeter avec cette dimension poétique. Au fond, quand Georges Méliès tournait des films, il montrait une scène de 6 mètres carrés filmée toujours dans le même axe, et ça permettait aux gens de rêver très très loin. Aujourd'hui, avec la 3D, avec probablement demain, les touchorama, les odoravision et trucs comme ça, eh bien, quelque part, l'espace de la poésie aura disparu, sauf dans le cadre de documentaires comme le vôtre, où à l'évidence, il s'agit de restituer toutes les dimensions d'une aventure et d'un rêve. Et je crois qu'évidemment, en ce cas, la 3D est l'outil idéal.
Alors, quelles sont les découvertes réalisées sur place, Erard Vandenboom? Parce que ça, c'est quand même des moments très importants de l'expédition. Les scientifiques étaient aussi un peu venus pour ça quand même. Racontez-nous quelques éléments majeurs, justement, de ces découvertes.
Alors, parmi les découvertes, on a ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est que parmi nos expéditions scientifiques, parmi nos équipes scientifiques, il y avait des gens qui travaillaient sur la biodiversité, puisque l'objectif était de faire un inventaire le plus exhaustif possible, mais on n'y arrive jamais, de la biodiversité. Mais c'était aussi de pouvoir étudier un petit peu les richesses archéologiques qu'il pouvait y avoir dans ce massif. Et en l'occurrence, on est tombé sur de quelques belles surprises, comme les premières peintures rupestres de Madagascar, qui ont été découvertes. Alors, visiblement, il y avait déjà eu quelques personnes qui les avaient vues avant mon passage en 2007. Moi, j'en ai vu quelques-unes comme ça, mais complètement par hasard, en allant, en prospectant un peu à droite à gauche dans certains abris sous roches et grottes. Et puis en 2010, on est donc venu avec deux archéologues. Et ces deux archéologues ont été accompagnés toujours des sorciers guérisseurs et des chefs de villages locaux pour pouvoir avoir les autorisations et ne pas heurter les tabous locaux. Et donc, ils ont été accompagnés tout au long de la mission. Puis à la fin, le sorcier guérisseur du coin leur a fait confiance, leur a fait tellement confiance qu'il leur a dit « je vous emmène quelque part ». Et là, il les a fait marcher pendant des heures et des heures. Ils sont arrivés épuisés. Mais au bout, ils sont tombés sur une grotte gigantesque avec plus de 500 peintures sur toute la façade. Et ça, c'était quelque chose de complètement exceptionnel qui a fait qu'en sortant de là, on a dit « c'est le Lascaux de Madagascar, quoi. C'est vraiment incroyable ». Donc on a amené une autre équipe archéologique encore l'année suivante, donc celle du film, en novembre-décembre dernier. Et là, ils ont passé 10 jours à faire le relevé de toutes ces peintures. Maintenant, il faut encore en connaître un petit peu les datations, il faut un petit peu savoir plus que ça.
Des tombeaux ont été découverts.
Exactement, pas mal de tombeaux aussi. Alors là aussi, il faut y aller tout doucement, on ne peut pas entrer dans un tombeau comme ça, on ne peut pas ouvrir un tombeau, on ne peut pas toucher un squelette.
Vous avez travaillé justement avec les Malgaches là-dessus, parce que c'est tout à fait particulier, c'est une sorte de violation de s'approcher de ces tombeaux pour eux.
Oui, c'est une violation dans la mesure où ça touche à leur ethnie. Et là, la chance qu'on a eue quelque part, c'est que à chaque fois qu'on a approché de tombeaux, ils n'en avaient pas connaissance. Et à partir du moment où ils n'en avaient pas connaissance, ils considéraient, ils nous disaient, ça c'est pas de notre ethnie, c'est l'ethnie antérieure, les Sakalaves, qui étaient là donc il y a quelques siècles. Et donc, oui, on vous autorise à les ouvrir, mais il faisait un protocole, évidemment, avec toute une petite démarche d'incantation avant. Et puis, on a pas coupé au sacrifice de Zébu au début de la mission pour pouvoir faire tout ça.
Et les tombeaux étaient ceux de personnalités importantes des ethnies ou pas ?
Alors, c'est toujours difficile à dire comme ça, mais c'est vrai qu'on est tombé sur des sarcophages, notamment dans un des tombeaux, et ces sarcophages étaient ornés, ce qui a fait dire aux archéologues de la mission et aux chefs sorciers, enfin aux sorciers guérisseurs du coin, qu'effectivement, on avait là probablement affaire à une tombe de roi.
Oui. Alors le fameux crocodile dont on parle et que vous voyez d'ailleurs à un moment, hein, est-ce qu'il a été capturé finalement ou pas alors ?
Alors on en a vu beaucoup, on les a tous traqués dans divers endroits du massif. Ouais. On en a eu peur aussi parce qu'on voit souvent les traces, mais on les voit rarement.
Ouais. Et puis vous êtes dans l'eau. Hein. Enfin,
et on est tout le temps dans l'eau. C'est un massif qui est une sorte d'éponge. En fait. Pendant toute la saison des pluies, ça accumule l'eau parce que c'est un massif de grès. Et puis ça restitue cette eau pendant tout le reste de l'année. Donc quand on évolue dans les canyons, on est toujours les pieds dans l'eau. Et parfois, on est obligé de nager aussi. Et malheureusement, on n'a pas réussi à attraper le gros crocodile qu'on cherchait. Donc on a attrapé un bébé crocodile. Mais voilà, comme dit dans le film, c'est vrai que quand on fait de l'ADN, quand on a besoin d'identifier une espèce, on n'a pas besoin d'avoir le gros adulte. Il suffit de prendre un échantillon d'ADN et on sait.
En tout cas, on voit les conditions de cette expédition qui sont extrêmement difficiles avec les pluies qui par moments balayent tout. Donc on imagine la vie pour les scientifiques et l'équipe du tournage également avec vous. Mais on ressent évidemment cette intensité tout au long de ce film. À voir donc ce soir sur Canal+, à partir de 20h50, Macaille, les aventuriers du monde perdu. Il y a un livre également qui est publié aux éditions de La Martinière et qui reprend les images du film ?
Alors non, ce sont vraiment des photos qui ont été prises tout au long des missions, depuis 2004 jusqu'à la dernière mission en janvier 2011, et qui traitent de tout, on va dire, le récit, c'est plutôt un récit personnel de toute cette aventure depuis qu'elle est née dans ma tête.
Serge Brombert, sur les peintures rupestres, ça vous fait penser au cinéma ou
je
pas
vous dire, oui, ça me fait penser. En réalité, quand il raconte ces histoires-là, je vois les paysages, je suis déjà dedans et je les vois en 3D. Ce type d'exploration est absolument incroyable. Mais au fond, on fait le même métier. En allant chercher les films de Georges Méliès en 1902 et en les remontrant aujourd'hui, en réalité, on remonte dans le temps, mais on va loin dans le temps, comme vous allez loin dans l'espace. On est aux origines du rêve un peu fondateur et au pays de l'éternelle jeunesse. C'est exactement ce que j'entends dans vos explorations et je le retrouve dans Méliès.
Voilà, avec ce jeune homme vigoureux et en pleine santé, donc qui va vous repartir sur Madagascar d'ailleurs, je crois que c'est demain matin.
Absolument.
Une fois que vous aurez récupéré les audiences de Canal+, donc on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts pour vous ce soir pour la diffusion de ce très beau film. Et puis on va également dans les salles MK2, Serge Brombert, pour Le Voyage extraordinaire et Le Voyage sur la Lune de Méliès. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Dans
Merci
un instant, la bibliothèque scientifique idéale avec aujourd'hui le chimiste Gérard Ferré qui nous livrera son choix livresque.
zut. Où je sens l'insulte de trop. Marque mon visage. Remarque, je tourne la page. Tourne mon héritage en lambeaux.
Rien de moi, Claire de Namur sur France Inter et Djoubaka pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. La tête.
Et on termine l'émission comme tous les mercredis avec la bibliothèque scientifique idéale. Aujourd'hui, le choix du chimiste Gérard Ferré.
Des objets fragiles. Pierre-Gilles de Gênes et Jacques Badose. C'est un livre qu'ils ont écrit en 1994, à quatre mains, après le prix Nobel de Pierre-Gilles de Gênes et sa circulation dans les lycées et collèges de France et de Navarre. Et vous savez, s'il a fait ce geste immédiat pour aller vers les jeunes, ça recèle beaucoup de richesse, de personnalité et un amour des jeunes, pour convaincre que la science est utile et nécessaire pour les civilisations. Alors, vous pourrez me dire, paradoxalement, c'est quand même curieux qu'un chimiste parle d'un physicien. Et je ne connais pas un physicien, même encore maintenant, qui soit aussi amoureux de la chimie. Il a compris toute la nécessité de la chimie, toute l'attractivité de la chimie pour les sociétés actuelles et futures. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Alors, son contenu en grande ligne, une initiation à la science à partir d'expériences très simples, très amusantes. Et ça se lit comme un roman. C'est toujours des histoires courtes avec des mots extrêmement simples, mais qui débouche sur les questions fondamentales, avec toujours ce respect de l'aventure scientifique. La deuxième partie est plus réservée à des jeunes adultes. C'est une réflexion d'un homme d'âge mûr sur les relations du scientifique avec la société. Une critique objective des défauts de notre société, indépendamment de toute philosophie politique. J'aime partir d'une expérience amazonienne. Les Indiens d'Amazonie prennent la sève de l'EVA, une sorte de jus blanchâtre comme celui du pissenlit, et s'en tartinent les pieds. Au départ, ce jus de l'EVA est un liquide banal. Il coule, mais au bout d'une vingtaine de minutes, il se fige et l'Indien obtient ainsi une botte et il peut marcher dans la forêt amazonienne. Et il peut marcher. Cette transformation est intéressante. Je vais commencer par l'expliquer comme on le fait de nos jours. 5000 ans après que les Indiens aient découvert l'astuce.
C'est quoi un objet fragile?
Bien. Pierre-Gilles de Gênes.
Quand vous faites un caoutchouc, vous partez de molécules qui sont comme des nouilles, qui sont un liquide, et puis vous faites une toute petite réaction chimique. Vous attachez 1% ou 1 pour 1000 des atomes de carbone entre eux, et au lieu d'avoir des nouilles, vous avez un réseau, comme un filet de pêcheur, et c'est ça le caoutchouc. Et ça, c'est une fragilité, ça veut dire que n'importe quelle petite perturbation peut bouleverser le système.
À partir de quel âge on peut commencer à le lire? Je dirais 12 ans. À 12 ans, la curiosité d'un jeune adolescent est à son maximum. Il est curieux, il a envie d'apprendre, il a envie de découvrir. Et il va se laisser porter par ce livre. Moi, je l'ai lu au moins 20 fois. De Gênes parlait avec les mains. Jamais une formule, alors qu'il est physicien, théoricien et de très très haute volée. Mais il dessinait parfaitement. C'était une BD, les cours de Gênes. C'était extraordinaire.
Le choix de Gérard Ferré, et vous retrouvez tous les ouvrages de nos scientifiques en allant sur le site de la Tête au Carré sur franceinter.fr. Vous aurez la liste de la bibliothèque scientifique idéale.